Ça vous chatouille les oreilles? Ça vous démange les orteils? Vos neurones s'agitent? Vous vous sentez revivre? Vous êtes dans le Ghetto Blaster de Prune.
Alors, le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Los Aliens de... C'était El Internet par Los Aliens, pardon, qui est un groupe mexicain. Donc, nous avons avec nous Nicolas et Keops, du fournisseur d'accès Internet associatif Fait Maison. Nous allons discuter de leur association, d'indépendance sur Internet et de la législation actuelle et à venir concernant le numérique. Alors, Nicolas et Keops, bonjour.
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 Pouvez-vous nous dire quelle est la raison d'être de Fait Maison?
Fait Maison, c'est plusieurs choses. En premier lieu, on est fournisseur d'accès à Internet associatif. Donc, on fournit des connexions ADSL à qui le veut, de préférence pas loin d'ici, puisqu'on a un côté local. Mais c'est aussi une association qui promeut, qui défend le respect des droits et des libertés fondamentaux sur Internet. En particulier, le droit à la liberté d'expression, le libre accès à l'information et le respect de la vie privée.
J'aurais pas dit mieux.
Alors, vous avez ouvert combien de lignes à ce jour, exactement?
On a une douzaine de lignes.
Une douzaine
ouvertes, je crois.
Et comment on ouvre une ligne chez Fait Maison et ça coûte combien?
Alors, vas-y. Okay.
Alors déjà, il faut être membre de l'association. C'est la première des conditions. Deuxièmement, après, en étant membre, après, on demande une ligne auprès de l'association et nous, on s'occupe de toutes les démarches. Par contre, il faut prendre une ligne chez France Télécom et nous, après, on vous fournira une connexion Internet comme les autres opérateurs.
Et donc, cette ouverture de ligne, combien elle coûte exactement?
Alors, le prix mensuel que tu payes chez Fait Maison est de, si je ne me trompe pas, 30 euros à peu près par mois.
Oui, d'accord.
C'est ça, 30 euros. Ce qui fait que c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs, c'est qu'il faut rajouter le prix de la ligne chez France Télécom en plus.
D'accord.
Qui est à 13 ou 14 euros, peut-être 15, je ne sais plus exactement. Mais ça revient en gros à 45 euros par mois.
Et alors, vous ne fournissez pas de box, donc j'imagine qu'il faut s'y connaître pour installer sa ligne chez soi.
On peut vous aider pour ça, ça c'est pas un souci.
Ouais, il y a un accompagnement,
une base de connaissances. On a Wikipédia, on a des outils qui sont des outils et des personnes qui sont prêtes à vous aider pour ça, quoi. Il y a pas de problème.
Alors on peut voir ça d'une autre façon. On ne fournit pas de box, mais on n'impose pas de box non plus. C'est-à-dire que l'utilisateur est libre de choisir du matériel et le logiciel qui va avec pour faire marcher sa connexion ADSL à la maison.
Mais j'imagine que vous avez des recommandations vis-à-vis de ça.
Du logiciel libre.
Alors évidemment, du logiciel libre. Et puis, si l'utilisateur est un peu hésitant, on a du matériel qu'on a déjà testé, on peut en prêter, on peut aider.
D'accord. Donc il y a un vrai accompagnement derrière. Ouais. Comment ça se passe de votre côté pour ouvrir une ligne? Quelles sont les démarches que vous faites?
C'est simple. On commence par ouvrir sa ligne chez France Télécom. Ensuite, on devient membre de Fait Maison. Enfin, on peut être membre de Fait Maison avant, d'ailleurs, sans avoir de ligne chez nous. Et puis, une fois qu'on a sa ligne France Télécom, on nous envoie le justificatif avec le numéro et le nom dessus. Et nous, ensuite, on fait ce qu'il faut pour construire la ligne ADSL. Et ensuite, ça prend le délai normal qu'il faut pour construire une ligne ADSL chez n'importe quel opérateur, c'est-à-dire entre une et plusieurs semaines.
Okay.
C'est assez variable.
Peut-on considérer que c'est un acte militant pour une certaine idée d'Internet d'adhérer à Fait Maison?
Oui, c'est clairement, c'est avant tout notre but en fait. C'est vraiment qu'on défend l'Internet libre et sans bridage, sans contrôle. Juste l'Internet tel qu'il devrait être normalement en fait.
Et quel est votre public à ce jour? Est-ce que vous avez que des connaisseurs, que des geeks j'allais dire, ou est-ce que vous vous ouvrez à des gens un peu plus néophytes?
On essaye,
on n'y arrive pas trop mal, mais effectivement le noyau fondateur de l'association était plutôt un public des personnes qui s'y connaissent en informatique et qui sont déjà sensibilisées à tout ça. Finalement, paradoxalement, je pense que dans les gens qui ont une ligne chez nous, c'est pas forcément une majorité de gens qui s'y connaissent techniquement. C'est des gens qui ont compris que qu'ils adhèrent, si vous voulez, à ce qu'on fait, et donc ils prennent une ligne pour soutenir la chose, et puis parce qu'ils sont contents d'avoir une connexion qui respecte leurs droits, quoi, tout simplement.
Alors moi j'avais une petite question. Je suis par ici en réa. C'est à propos de l'intérêt du coup de cette box indépendante entre guillemets. C'est comme c'est plus cher, qu'est-ce qu'il y a comme service en plus et qu'est-ce qui fait que c'est meilleur qu'un autre fournisseur internet?
C'est un peu pareil quand vous achetez de la viande Label Rouge, en fait. C'est que le produit est meilleur, on sait comment ça marche, on sait comment ça fonctionne. On a le droit de s'auto-héberger, ce qui est interdit chez les autres opérateurs. Typiquement, si vous prenez votre console chez vous, vous n'avez pas le droit d'héberger une partie. Aucun opérateur vous condamnera pour ça, mais il y a des règlements qui vous interdisent ça. Nous, on suit les règles pures et simples d'Internet, et on a l'avantage d'être et le fabricant de notre bout d'Internet et le consommateur. Ce qui fait que certains opérateurs peuvent se permettre, comme par exemple vendre des fichiers clients, bah nous on a voté que non, on ne vendait pas les fichiers clients. Voilà, c'est des choses comme ça et toute une série, quoi.
D'accord, et même si la législation allait dans le sens de montrer les fichiers clients, etc., vous seriez contraint de le faire au final.
On n'est pas une association de malfaiteurs, attention. Ouais. Que les choses soient bien claires, si la loi s'applique, on s'adaptera à la loi.
Très bien. Alors, on va faire une petite pause musicale maintenant. Qu'est-ce qu'on écoute, Anna?
Darling par SB.
Vous êtes de retour sur Prune 92 FM ou www.prune.net. Nous sommes toujours avec Nicolas et Kéops de l'association Fait Maison. Alors, Nicolas, Kéops, d'après vous, quel est l'intérêt de s'affranchir des grandes firmes de fourniture d'accès, mais aussi de services web comme Google, Facebook et compagnie?
Peut-être commencer par les FAI, puisque c'est notre activité. Alors, l'intérêt, par exemple, si quand on comprend, enfin une fois qu'on a compris que tout l'accès à certains droits, la liberté d'expression, l'accès à l'information, en fait, on a un mandataire pour ça, c'est notre FAI, puisqu'on fait la plupart de l'accès à ces droits passe par Internet. Le fait d'avoir plus d'acteurs, d'avoir des petits acteurs locaux, sur lesquels on a un droit de regard, sur la façon dont ils gèrent le réseau. Ça permet de pouvoir garantir, de pouvoir s'assurer qu'ils respectent nos droits. C'est-à-dire que, bon, si je suis chez un FAI majoritaire, parmi les 3 ou 4 plus gros qu'il y a en France, la gestion du réseau est pas transparente, donc je sais pas, en fait, s'ils ralentissent certaines de mes connexions, s'ils bloquent certains sites, ou s'ils même ils changent le contenu de ce que je suis en train de voir. Donc je sais pas s'ils respectent mes droits. Donc un des intérêts principaux, en fait, est là. Et puis tout simplement de créer de la diversité. Il devrait pas y avoir que 3 ou 4 FAI qui sont finalement, entre guillemets, mandataires ou garants ou non garants des droits de la plupart des Français. Quoi.
Et comment on fait pour s'assurer de ces droits au niveau des flux finalement qui nous arrivent? Est-ce que vous proposez un moyen de contrôler ça?
Déjà, on comprend comment ça marche. C'est très important en fait. Si on le fait au niveau local.
Pardon, vous nous l'expliquez comment ça marche
Bah, indirectement, oui. Quand tu rejoins l'association, bien évidemment, tu le rejoins pour le côté politique, mais aussi pour le côté pédagogique. Donc, en gros, tu te renseignes comment ça fonctionne, on t'apprend comment ça marche, on te réapprend comment ça marche, parce qu'on, de la façon que l'a appris dans le grand public, c'est pas forcément comme ça que ça marche en vrai. Et voilà. En réalité, ça commence par cette étape-là, et un peu après, on comprend qu'il faut faire évoluer les choses, quoi.
Alors, on l'a vu, vous êtes un petit peu plus cher que les autres. Donc, ma question, c'est, il y a donc un prix à payer pour être indépendant, finalement?
Il y a des raisons pour lesquelles on est plus cher. C'est qu'on se base sur des contrats qui nous sont revendus à nous et qui représentent des coûts incompressibles. Alors, actuellement, dans la façon dont on fournit la DSL, effectivement, il y a un prix à payer. C'est, entre guillemets, le prix de la liberté. Bon, c'est pas terrible de dire ça comme ça, mais... Pour le moment, oui. Après, on essaye de développer d'autres types d'infrastructures qui nous seront propres et qui permettront, nous, de nous émanciper de ces contrats sur lesquels on est obligé de se reposer actuellement. Et lorsqu'on aura développé cette infrastructure-là, qui demande un investissement initial, on pourra pratiquer des coûts qui devraient être égaux, voire inférieurs, en fait.
Et alors, quelle est cette infrastructure en question, en quelques mots, simplement?
Donc l'idée, c'est d'essayer de taper dans le pas trop cher pour le moment. Donc on se base sur de l'infrastructure sans fil. Donc tout simplement prendre du débit à un endroit où il y en a et en amener avec des antennes à un endroit où il y en a pas ou où il y en a peu. Éventuellement en mutualisant ça pour faire diminuer les prix pour l'utilisateur final.
Et j'ai entendu, parce que je suis un peu l'activité de l'association, que vous essayez d'apporter Internet dans les zones blanches, c'est-à-dire dans les zones où il n'y a pas de net dedans. Ou est-ce que
alors ça fait partie de nos ambitions, bien évidemment, mais avant tout, c'est pas non plus notre priorité. Nous, c'est déjà de fournir un Internet propre. Bien évidemment, si on peut fournir de l'Internet dans des zones blanches, on le fera. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a aucun problème, quoi.
En disant aussi que les priorités de l'association dépendent des opportunités qu'on a. Réussir à démocratiser l'accès, que ce soit en zone blanche, là où il n'y a pas de débit actuellement, ou que ce soit auprès de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une box, ça fait partie des choses qu'on essaye de faire. Après, on n'a pas forcément les moyens de le faire tout de suite.
Et à part adhérer à un FAI indépendant, ou en tout cas associatif, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour être plus indépendant sur Internet? Pour être plus libre.
Et bah, je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres solutions en fait. Déjà, ne serait-ce que de rejoindre une association et chercher à comprendre, communiquer sur ces associations, déjà, c'est déjà nous aider. Mais après,
si il y a d'autres solutions. Effectivement, se regrouper pour apprendre comment ça fonctionne, c'est une étape qui est très importante puisque c'est comme ça qu'on peut détecter d'éventuelles atteintes à nos droits. Par contre, si on n'a pas forcément le temps de rejoindre une association, il y a certains outils qui permettent de protéger ces communications en ligne. Je pense à Tor, par exemple, qui est un outil qui garantit un anonymat relatif sur Internet et qui permet aussi de contourner certains types de censure.
D'accord, merci. On se retrouve tout de suite après un morceau de musique. Yeah.
écoutions Hello par Alex Goffer.
De retour sur Prune 92 FM, www.prune.net. Nous sommes toujours avec Nicolas et Kéops de l'association Fait Maison. Alors, selon un communiqué que j'ai vu aujourd'hui de la Quadrature du Net, après leur examen au Conseil des ministres, mercredi passé, les décrets d'application permettant le blocage administratif des sites à caractère pornographique et terroriste ont été publiés aujourd'hui au Journal officiel. Pouvez-vous nous dire ce que c'est un blocage administratif de site et comment cette mesure est censée fonctionner ?
Un blocage administratif de site, ça veut dire on donne à l'administration le pouvoir de censurer l'information sans passer par la justice.
D'accord. Et parce qu'habituellement, normalement, elle est censée passer par la justice.
J'y vais. Pour retirer un droit à un citoyen, en fait, la loi est très claire. Si vous voulez retirer un droit, il faut passer par un juge. Voilà, c'est très simple. Et le problème, il est là, c'est que cette loi permet de ne pas passer par un juge pendant une courte période.
Alors, pensez-vous que ce type de mesures peuvent être utiles ? Pourquoi ?
Je sais pas, non, moi je pense pas, je dirais plutôt contre-productive. Alors pour plusieurs raisons, alors on va commencer par, elles sont problématiques déjà, puisque en faisant ça déjà, on donne donc le pouvoir de censure à l'administration directement, sans contre-pouvoir judiciaire, ce qui est en contradiction avec les fondements de l'état de droit. On responsabilise également, en faisant ça, les fournisseurs d'accès à Internet, puisque c'est à eux qu'on ordonne d'effectuer la censure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on transforme des entreprises privées en organes de censure, donc ce qui n'est pas normal non plus. On considère ensuite, en faisant ça, que les citoyens ne sont pas capables de faire le tri par eux-mêmes, on les déresponsabilise également. Et puis, concernant plus l'utilité, justement, ou l'efficacité, malheureusement, ces mesures-là sont très aisément contournables pour quiconque a vraiment envie d'accéder aux contenus qui sont interdits, entre guillemets.
Donc, il y a un réel danger pour la liberté d'expression, en fin de compte, parce que si l'administration peut décider si... où est la limite, en fait, entre un site terroriste et un site qui parle juste de terrorisme? Finalement, on ne sait pas.
C'est très compliqué. Et il est là le problème. Parce que à chaque fois qu'on a une envie de censurer Internet, c'est toujours pour les mêmes sujets d'ailleurs, c'est toujours la pédopornographie et le terrorisme, on a envie de trouver une solution. Et la solution, en fait, c'est de traiter le problème à la source. C'est-à-dire de retrouver la personne qui a fait la bêtise. Sauf que c'est très compliqué. Donc on essaye de confier le problème aux intermédiaires. Ce qui n'est pas correct et n'est pas fiable, en fait.
Alors, est-ce que vous pensez que c'est vraiment pour lutter contre le terrorisme et la pornographie, puisque c'était le cas
À mon avis, c'est la pédopornographie plutôt que la pornographie.
Ah, sur le communiqué de la Quadrature, moi j'ai lu pornographie, mais c'est possible que ce soit la pédopornographie. Peu importe. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais, mais je vais retrouver le fil. En tant que fournisseur d'accès à Internet, vous l'avez dit, vous serez concerné. Comment ça va se passer pour vous ?
Comment ça va se passer pour nous ? On n'a pas encore décidé de la façon dont, en tant que FAI, on allait réagir si on était obligé de bloquer les sites. On fait partie d'une fédération qui s'appelle la fédération FDN, qui à l'intérieur de laquelle il y a d'autres fournisseurs d'accès associatifs qui sont engagés de la même façon que nous. Il y en a au moins un qui a affirmé déjà il y a quelques mois qu'il n'appliquerait pas les décrets, les ordres de blocage. Nous, pour le moment, on ne sait pas. Par contre, on peut à minima informer les personnes, les utilisateurs, que si blocage il existe des outils pour contourner, pour continuer à accéder à l'information. En fait.
Et quels sont ces outils de contournement que tu as évoqués
Alors, le plus connu et le plus simple, c'est de passer par Tor. Si vous voulez juste essayer, vous allez sur le site de Tail, vous tapez Tail Tor dans tous vos navigateurs de recherche et vous le trouvez. Sinon, vous pouvez mettre sur vos navigateurs, vous pouvez ajouter Tor Browser. Pareil, vous cherchez dans vos moteurs de recherche, vous retrouverez. Il y a encore plus simple, c'est de changer ce qu'on appelle les DNS. Le DNS, c'est le service qui fait le lien entre... quand vous tapez votre URL, par exemple google.fr, vous tapez pas l'adresse IP, vous tapez Google. Donc ça, c'est le service DNS qui, et c'est par ce système qu'on risque de censurer. Donc en changeant de DNS par des DNS libres ou si tu vas à l'étranger, on contourne totalement la censure.
D'accord, donc c'est finalement parfaitement inefficace.
Un enfant de 13 ans peut contourner la loi, il n'y a pas de souci.
Ok. Bon, mais je vous remercie pour votre passage à Prune. Je rappelle que vous êtes de l'association Fait Maison. Vous êtes web sur le site www.faitmaison.net.
Et tous les jeudis soirs à B17. Et jeudi 19 février, on fait un apéro dans un café à Nantes, mais on ne sait pas encore exactement où, mais c'est ouvert à tous et fait pour venir nous rencontrer.
Plus d'infos sur faitmaison.net.
Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Kéops, et à très bientôt.
Merci à toi.
Merci.